Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Parmi les grandes figures de la Révolution française, le nom de Marat est sans doute resté dans les mémoires, plus par sa mort marquante que par son parcours. Mais qui était vraiment Marat ? Eh bien, je vous propose de découvrir un extrait de mon entretien avec Olivier Coquart, historien, agrégé d'histoire et prof au lycée Henri IV à Paris. Il a rédigé sa thèse sur le révolutionnaire Jean-Paul Marat et a ensuite publié plusieurs ouvrages sur la Révolution. Retrouvez très bientôt l'entretien intégral sur mon podcast Nota Bene. Bonne écoute à tous. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le personnage, en quoi c'est un exemple vraiment parfait du coup de ce que tu décrivais avant, de cette période en tout cas d'inspiration des Lumières, quel était son parcours peut-être avant de devenir révolutionnaire ?
Donc il est né en 1743, et il naît dans une principauté qui dépend de la Prusse, mais qui est dans la Suisse, qui est en Suisse actuelle. Donc en fait il est pas suisse, hein, il est prussien d'origine. Il naît dans une famille calviniste, à poil quand même assez dur, parce que son père est un défroqué, et donc il s'est converti au calvinisme. Il était sarde, hein, d'origine, donc il s'est converti au calvinisme, ce qui fait que il a quand même une foi calviniste chevillée au corps, et sa mère est descendante de calvinistes français émigrés après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Autrement dit, il naît dans une famille où il y a une très forte présence religieuse, ce qui est important pour la façon dont il écrit et pour les références qu'il manipule. Il manipule énormément de références bibliques avec une très grande maestria. Son père est artisan, un peu artiste. C'est de la petite bourgeoisie qui s'en sort à peu près. Il a un certain nombre de frères et de sœurs, dont beaucoup deviennent des. Il y en a un qui a un parcours un peu particulier. Il a fini en Russie, où il a été l'un des professeurs les plus appréciés du grand lycée des tsars de Russie au début du 19e siècle. Il a été l'un des professeurs préférés de l'écrivain Pouchkine. Ça donne des destinées assez particulières. Donc lui. Il fait des études à Neuchâtel et comme il faut bien gagner de l'argent, il est très rapidement, à moins de 20 ans, il est envoyé comme précepteur dans une famille protestante de Bordeaux. Hein, c'est des réseaux qui jouent comme ça, et ça c'est important, quoi, des réseaux. Donc il arrive à Bordeaux dans une grande, grande famille de la bourgeoisie commerçante, c'est les Nérac. Hein, il existe encore un château Nérac, plutôt pas mauvais d'ailleurs, chez les Nérac. Et ça le met au contact de gens qui, alors c'est des négriers épouvantables. Enfin bon, hein, on n'est pas dans du rose bonbon jamais. Mais il y a une bibliothèque importante. Il apprend plein de trucs et il commence à se forger une première vraie culture des Lumières. Puis ensuite, alors une fois que, puisque précepteur, ça dure pas très très longtemps, puisque les enfants s'agrandissent, donc il monte à Paris, et puis ensuite, alors on a là des petits problèmes de source si on n'accepte pas de suivre tout ce qu'il nous dit, et moi je n'accepte pas de suivre tout ce qu'il nous dit, mais il arrive en Angleterre au milieu des années 1760, et là, d'une part, il accomplit une formation qui est une formation sur le terrain, puis une formation théorie qui lui permet d'accéder au grade de docteur en médecine. Donc, il décroche son doctorat en médecine en Écosse, hein, donc il y a une espèce de pérégrination, avec une spécialité sur les maladies pulmonaires, mais à l'époque, c'est des maladies très très fréquentes, donc les gens toussent, c'est la tuberculose, c'est la phtisie. Il atteint une espèce de compétence thérapeutique, on pourra y revenir si tu veux, mais il se fait une sorte de... Ouais, de réputation qui fait que à Londres, où il revient une fois son diplôme de docteur en médecine en poche, bah il a une clientèle sérieuse. Entre-temps, à Londres, il y a eu, au moment où il y était, des émeutes, et il a pu découvrir in vivo l'efficacité de la presse. Mais on est, il nous dit qu'il y a participé, qu'il a été machin, truc et bidule. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il écrit à ce moment-là son premier ouvrage politique. Ça, c'est une certitude, dont le succès est relatif. Enfin, on réussit à en retrouver quelques exemplaires. Il y en a un à la British Library, mais il n'y en a pas, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est vraiment un bouquin qui n'a pas été conservé précieusement dans des bibliothèques nombreuses. Hein. Et il revient à Londres et là, il fréquente la bonne société. Il tombe in love avec une Suissesse, évidemment, qui est une des grandes peintres, femmes peintres du XVIIIe siècle, qui s'appelle Angelika Kauffmann. Donc là, il y a une love affair. Et puis, il continue d'écrire à la fois sur la science, comment guérir la blénorragie, comment guérir des affections oculaires, et puis continue à avoir une espèce de réflexion philosophique dont la profondeur ne rend admiratif que les admirateurs de Marat. C'est pas très très bon, c'est un peu théiste, un peu sensualiste, un peu n'importe quoi. Mais donc, il publie des bouquins et il arrive à Paris avec un petit pécule, il revient à Paris avec un petit pécule et il s'installe comme médecin à Saint-Germain-des-Prés, carrément, qui est l'un des grands quartiers de la noblesse. Et il se fait une clientèle qui lui rapporte beaucoup de sous. Quand il soigne les gens de façon efficace, il lui offre des bouteilles de champagne. Hein. J'ai retrouvé des documents rigolos à ce sujet.
C'est agréable.
C'est plutôt agréable. Il se passionne pour la science. Il devient électricien, chimiste. Il se passionne pour tout ce qui fait la sociabilité des Lumières. Il fait des concours académiques, c'est-à-dire qu'il y a des académies en province par dizaines, hein, près de 200, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, il participe à des concours académiques à Rouen, à Lyon. Parfois, il gagne, parfois, il perd, pour des raisons qui ne tiennent d'ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, pas forcément à la qualité de ses travaux, mais parce qu'il a des copains plus ou moins bien placés. Son rêve, c'est d'entrer à l'Académie des sciences. Après tout, c'est un des grands médecins parisiens. Il écrit des choses qui sont considérées avec beaucoup d'intérêt. Sa traduction de l'optique de Newton est l'une des meilleures que tout le XVIIIe siècle est proposée. Donc, il est dans le mauvais camp scientifique. Il y a grosso modo le clan des analystes, dont Lavoisier est le patron, qui pensent que l'objectif de la chimie, c'est de découper pour trouver les éléments, les atomes, le mercure. Hein, donc c'est Lavoisier et son équipe qui proposent une nouvelle nomenclature, appelant ainsi le vif argent, c'est l'ancienne dénomination mercure, etc., etc. Donc, face à eux, il y a un autre clan qui a eu une importance considérable dans l'histoire de la science. Que je vais appeler par commodité le clan des synthétiseurs. Pour eux, l'objectif de la science, c'est pas de trouver les petits éléments, c'est de trouver le grand tout. Certains d'entre eux pensent que c'est l'harmonie universelle. D'autres pensent que c'est un matériau qui a eu une très grande importance au XVIIIe siècle, qui s'appelle le phlogistique. Marat, son truc, c'est le fluide. Je pense que le feu est un fluide, que la lumière est un fluide, que la chaleur est un fluide, que l'électricité est... Donc, il voit des fluides partout. Rétrospectivement, ça n'est pas forcément complètement idiot. Mais donc, c'est le mauvais camp. C'est-à-dire que c'est le camp qui n'a plus la majorité à l'Académie des sciences. Et il se fait bouler à chaque fois qu'il tente d'y entrer. Et très rapidement... comme c'est quand même un peu une tête de cochon, il se met plus qu'en froid avec des noms aussi peu importants que Lavoisier ou Condorcet.
Ouais, mauvaise idée.
Ça n'est pas la bonne idée. Ça n'est pas la bonne idée. Mais je pense qu'en matière de relations interpersonnelles, Marat a eu très peu de bonnes idées.
Mais alors, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de contacts aussi à l'international. Il parlait plusieurs langues.
Ah, il est super. J'en suis jaloux. Hein. Il est hyper polyglotte. Il écrit et parle parfaitement anglais. Il lit, ça c'est certain, et il le parle probablement l'allemand. Il écrit évidemment en français. Il maîtrise, comme tout le monde, le latin. Et très probablement, il a appris le castillan. Donc, c'est un homme des Lumières.
Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire. Je le lirai avec plaisir.